En Vallée d'Ossau, puisque vous le savez tous, notre conseiller général, M. Berdou, a pris une position vendredi dernier au comité de massif en se prononçant favorablement pour une introduction d'ours en Béarn. Toutes les associations environnementales aujourd'hui qui se prononcent disent que les Basques et les Béarnais sont favorables à une réintroduction d'ours sur le 64. Tout ceci est complètement faux. Tout ceci est complètement faux, c'est un véritable mensonge. Nous sommes en train de nous organiser, malgré le boulot, malgré les troupeaux en estive. Hier soir, il y avait une réunion en Vallée d'Ossau, une réunion à Saint-Engrasse, au Pays Basque, et nous allons nous exprimer. Nous allons prendre rendez-vous la semaine prochaine avec M. Berdou, notre conseiller général, et nous allons aller lui demander les yeux dans les yeux pourquoi il nous a trahis, qu'il nous explique sa position. Et nous, les bergers du 64, comme longtemps, on est toujours opposés à toute réintroduction d'ours sous les Pyrénées. On est solidaires, on est venus à quelques-uns aujourd'hui, on est solidaires par rapport à la famille Lassalle sur ce qui s'est passé sur le pays Toy. Et je vous garantis qu'on ne lâchera pas l'affaire. On s'est un peu endormi ces derniers temps parce que bien entendu, il y a autre chose à faire, il y a du boulot dans nos exploitations. Mais je vous garantis qu'on est en train de s'organiser. Et s'ils la veulent, la guerre, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Je vous garantis qu'il n'y aura pas d'introduction en Béarn. Et on fera tout pour qu'il n'y ait pas d'introduction sur les Pyrénées. 300 000 brebis sur le Béarn. Il n'y aura pas d'introduction en Béarn malgré la décision d'un ou deux de nos politiques. Nous ne nous laisserons pas marcher dessus, nous ne nous laisserons pas insulter. Nous n'en voulons pas et nous sommes complètement solidaires du pays Toy. Bravo !
Bernard Moul.
Oui, chers amis. Nous nous trouvons à nouveau rassemblés aujourd'hui. On pensait que, après 20 ans de combat, les choses pourraient un jour se terminer. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, ça recommence. Et ça recommence aussi fort que ça avait commencé dans les années, dans la fin des années 90 et le début des années 2000. Ce qui se passe est un véritable scandale. Et un scandale à différents niveaux. En premier, je voudrais, au nom de l'ensemble des organisations professionnelles agricoles, renouveler, on n'a pas besoin, parce qu'il le sait, mais renouveler notre soutien à la famille Lassalle-Carrère, qui accumule, comme je le disais en réunion, les pépins ces dernières années. Ils ont tout notre soutien, ils ont le vôtre, ils ont le soutien de l'ensemble des OPA de la chaîne des Pyrénées et bien au-delà. Il s'est passé différentes choses ces jours derniers. La première, c'est ce qui s'est passé en Espagne, à notre frontière, ces derniers jours. Marie-Lise l'a rappelé, une opération de lâcher, sans aucune autorisation, dans la plus grande illégalité, a été réalisée ces derniers jours. On nous a opposé qu'il s'agissait d'un lâcher sur le territoire espagnol et que nous n'avions rien à dire, mais là-dessus, d'une façon beaucoup plus technique, Bruno vous en dira deux mots tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de lien entre les ministères et les services décentralisés de l'État. On a noté que tout dernièrement. Alors que certains, l'autre jour, osaient même le contester. La ministre de l'écologie a chargé un préfet de région, ce n'est quand même pas rien. Quand un ministre écrit à un préfet de région, c'est pour quand même qu'il s'exécute sur les demandes qui lui sont faites. Et la demande qui lui était faite, c'était de voir comment, pour se lâcher, il devait y avoir consultation sur le territoire. Eh bien, ce n'est que les jours qui ont suivi le lâcher que cette lettre, semble-t-il, est ressortie des cartons, de ces grands cartons qu'à l'Adréal, dans lequel elle avait dû tomber. C'est quelque chose d'inadmissible. C'est le préalable que nous avons annoncé, les représentants agricoles au comité de Massif vendredi. Nous avons demandé que le préfet s'explique sur cette situation. J'espère qu'on lui aura fait la commission parce que ce préfet de région, depuis deux séances de comité de massif, n'a pas l'air très à l'aise de se présenter devant nous puisqu'il délègue le SGAR pour venir présider le comité. Donc, le SGAR étant le secrétaire général, voilà, c'est le... Enfin, comme chez vous, quoi. Vous êtes le patron, et puis celui à qui vous donnez les ordres, c'est votre employé. Lui, il envoie l'employé. Alors, ce sont des choses d'une gravité extrême qui, au-delà du problème qui nous occupe, pose le problème du fonctionnement de l'État. C'est quelque chose qui n'est pas anodin et quelque chose que nous avons dénoncé et que nous allons dénoncer. Nous attendons la réponse à la lettre que nous avons adressée au préfet Mayol sur ce sujet. Ça, c'était le premier point. Et puis, le comité de massif, entre autres choses, vendredi dernier, devait nous présenter par la voix céleste de l'Adréal, le nouveau plan pour l'ours brun. Avec, je passe sur les détails, trois possibilités. La première, un lâcher très important d'ours sur les Pyrénées, tel que le préconisait le Muséum d'Histoire Naturelle. Vous savez, c'est tous ces types-là qui réfléchissent, mais qui ne sont jamais venus par ici. Deuxième proposition, c'était de dire non à toute nouvelle réintroduction. Et la troisième, c'était de dire, on va y aller mollo. On va quand même les prendre par le bon côté, on va essayer de les prendre par le bon côté, leur raconter quatre histoires de plus et autoriser le lâcher de deux ours dans le Béarn. Bien entendu, dans le Béarn, n'est pas ailleurs. Hein. Quand on voit depuis Mel en 95, depuis c'est le premier lâcher, tous les lâchers qui se sont succédés, comment tous ces beaux bestiaux, et comment en serait-il autrement? Ils ont des pattes, comme dit Bruno, et ça circule. Alors, j'ai même posé la question, vendredi, de savoir qu'est-ce qu'ils avaient prévu comme chaîne pour les tenir dans les arbres là-bas du Béarn. C'est le problème que nous avons rencontré, c'est que pour ce comité de massif, ah, les pros avaient fait le plein. Ils ne pouvaient pas avoir une voix de plus, hein, parce qu'ils avaient tout ratissé. Par contre, nous, la représentation était un peu juste, mais pas due aux personnes. Due, je ne voudrais pas vieillir en devenant parano, mais quand même, une série de réunions dans tous les départements, suite à des convocations de l'État, qui mobilisent nos élus et qui ne peuvent pas se rendre au comité de massif, ça paraît quand même pour le moins suspect.
Sur les Hautes-Pyrénées, il y en a 5 qui n'ont pas
pu. Oui, 4. Hein, 4 sur les Hautes-Pyrénées.
Élus
n'ont pas pu se déplacer.
Parce qu'il y avait d'autres réunions. Voilà.
Ensuite, un de nos fidèles aurait dû regarder avec un peu plus d'attention la convocation. Il s'est pointé à 14h au lieu de se pointer à 9h30. Et c'est un représentant des Pyrénées-Orientales. Ça aurait été bien qu'il soit là. Et simplement, avec ses 5 voix de plus, eh bien, ça faisait du 20 à 15 et non pas du 15 à 15. Voilà. Mais le problème, vous savez, on est en pleine Coupe du Monde, là, le problème n'est pas obligatoirement le score, là. Le problème, il sera réglé avec la détermination que nous avons. La détermination à combattre ceux qui se servent de leur poste pour mettre en avant des idées personnelles. Je pense particulièrement là, aux représentants qui viennent d'être nommés le 12 mai dernier, enfin, nommés au comité de massif un petit peu avant, mais à la commission permanente le 12 mai dernier, je pense à M. Berdou, qui est nommé non pas parce qu'il a un profil qui serait plus intéressant que quelqu'un d'autre, qui est nommé au nom du parc national. Et puis, il y a aussi une représentation du conseil régional d'Aquitaine. Alors que nous avions jusque-là connu, quelques faiblesses ici ou là, mais in fine, quand même, les gens, quand ils votaient, ne se trompaient pas. Et bien là, alors que d'autres élus en Pyrénées-Atlantiques étaient aussi retenus par l'arrivée du petit train sur Bedouze, eh bien, il y en était un qui a été envoyé, qui s'appelle M. Sainte-Marie, et qui aurait le droit, à titre personnel, de faire ce qu'il veut, sauf qu'il est au comité de massif en tant que représentant élu de la région. Donc, à ces deux, pensez bien que dans une assemblée comme cela, il y a des gens qui savent fermement ce qu'ils veulent, d'un côté ou de l'autre. Et puis, vous pouvez avoir au milieu trois ou quatre indécis qui écoutent, qui... Quand vous avez quand même une institution, un personnage qui représente une institution comme le Parc National, quand vous avez un autre personnage qui représente une institution comme le Conseil Régional d'Aquitaine, vous pensez bien que leurs paroles, pour ces gens qui sont un peu flottants, est déterminante dans les choix qu'ils peuvent faire. Donc c'est extrêmement grave. C'est pour ça que nous avons demandé, j'ai la lettre entre les mains mais je ne vais pas vous la lire, parce que on doit aller vite. Mais je vous assure qu'il va falloir nous répondre avec précision. Nous demandons au président du parc national une chose très claire. Monsieur Berdou s'est-il exprimé en fonction d'un mandat ou s'est-il exprimé à titre personnel? C'est très simple. On nous répond. À partir de là, dépendront de la réponse qui nous sera faite, les relations que l'on continuera à entretenir. Même question que nous allons poser, c'est exactement la même lettre, même question que nous allons poser à M. Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine.
de Nouvelle-Aquitaine, pardon. Et on va lui demander s'il a donné à M. Sainte-Marie le même mandat. Et ce qui est grave dans la position de M. Sainte-Marie, mais Jean-Pierre Pomiès l'a dit clairement, c'est que non seulement M. Sainte-Marie s'est revendiqué de sa qualité de conseiller régional, mais il s'est revendiqué aussi de sa qualité d'agriculteur, porteur de la parole des agriculteurs transhumants, disant que la situation avait changé depuis 2006 et qu'il y avait aujourd'hui, et je reprends son terme et il est vérifiable puisque ces deux personnages n'ont pas fait comme nous, discuter comme ça, dire avec le cœur leur pensée. Ils avaient déjà préécrit, donc ça peut se retrouver très facilement au comité de massif, il n'y a pas de problème. Eh bien, ce monsieur s'exprimait au nom de ses collègues éleveurs, disant que la situation a changé depuis 2006 et que l'acceptation sociale est une réalité dans ce secteur du Béarn. Alors, il va falloir qu'on nous réponde, il va falloir que les choses soient claires. Une chose est sûre, à tous les niveaux où nous sommes représentés, soyez assurés que on veut que se termine ce feuilleton, que l'on termine avec ces balivernes de cohabitation possible, de mesures de protection adaptées qui ont fait la preuve de leur inefficacité. Ce que l'on veut, c'est qu'il n'y en ait pas. Peu importe pour nous, et là je le dis très fermement ici, peu importe pour nous, et quand je dis pour nous, je dis pour les organisations agricoles représentatives de tout poil, quelles que soient les décisions qui seront prises par l'État, ils nous trouveront en travers pour empêcher tous les lâchés, quel que soit l'aval qu'ils pourraient avoir reçu. Que ça soit clair, et je vous dis à très bientôt.
Oui, bonjour à tous. Moi, je viens du Béarn aussi, comme Jean-Pierre Pomiès. Je voulais aussi tout d'abord exprimer mon soutien et ma solidarité à la famille Lassalle, touchée par ce pépin. Mais c'est vrai que on croyait que l'histoire de l'eau s'était finie, sauf que tout d'un coup, cette histoire est sortie de terre par le biais d'un comité de massive dont Bernard a parlé. Et encore plus près de nous, on a appris par des rumeurs, mais des fois elles ne sont pas fondées, mais on a appris qu'il y avait un projet de lâcher sur le village d'Issam qui se trouve derrière la pierre Saint-Martin, c'est-à-dire à côté de la vallée de Varetous et en Béarn. Bon, il n'empêche que personne n'en avait été consulté, mais la rumeur s'est confirmée, puisque lors de la fête patronale du village d'Arrette, d'où je viens, le maire d'Issam, qui est une commune jumelée, a été invité. Et chez nous, le maire, après un dépôt de gerbes, mot de bienvenue, lui a ensuite demandé « Mais est-ce que c'est vrai que chez vous, il y a un projet de réintroduction d'ours ?» Mais il a dû confirmer que c'était vrai, quoi. Ça lui a déplu à ce qu'il m'a dit après, le maire d'Issam. Bon, je me suis permis de lui poser la question, parce qu'on se connaît bien aussi. Et il m'a dit, de toute façon, je lui ai dit, mais tu fais ça comme ça, c'est impossible. Mais non, t'en fais pas, tout le monde sera consulté, mais pour le moment, il n'y a rien, quoi. Mais après, je lui ai posé simplement la question, alors tu es pour l'ours. Il m'a dit, je ne suis pas contre. Voilà. Et non, je lui ai dit, mais moi je ne suis pas pour. Voilà, et on l'a laissé comme ça, quoi. Mais depuis, ce qui s'est passé chez nous, il y a une prise de conscience des élus de la vallée de Varetous qui, dans la foulée, le lendemain, ont pris une motion contre la réintroduction. Mais ça fait plaisir de voir la détermination de ces élus qui se sont prononcés à l'unanimité et qui ont envoyé ça au comité de massif. Mais bon, je leur ai conseillé, ce que m'a dit d'ailleurs Bruno, de faire envoyer ça au ministère. Voilà, ça c'est donc pour l'épisode local. Mais bon, et depuis, le comble dans tout ça, c'est qu'il y a un projet de lâcher là-bas, et tout d'un coup, on a appris qu'il y avait des dégâts à côté de ce village, je crois, de Dissama, sur un village de Sainte-Engrâce. Alors on nous dit que c'est Néré. Alors je ne sais pas s'il est chez vous, s'il est chez nous, mais c'est toujours Néré. Néré, voilà, mais enfin, il a déjà fait des dégâts. C'est quand même aussi, on se pose la question si la réintroduction n'a pas peut-être déjà été faite. Bon, on ne sait jamais. Mais voilà, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette lutte qui a commencé depuis 20 ans, mais 20 ans de trop, je crois. Et sachez une chose, que eh bien, la guerre est déclarée et on la gagnera. Merci.
Bonjour, je représente la Haute-Garonne et plus précisément le Haut-Comminges. Je suis là donc avec une petite délégation pour pouvoir soutenir le Pays Toy et la famille de la Salle. Mais aussi pour dire que nous ne voulons pas l'ensauvagement des Pyrénées. Nous voulons que nos vallées continuent à vivre et que nous les jeunes, on puisse continuer à y travailler. Parce que ce n'est pas que le pastoralisme qui est en danger, c'est toute l'économie. Donc nous on est prêts à se battre et ça va continuer tant qu'ils ne nous auront pas enlevé ces ours. Et s'ils veulent en réintroduire, on sera là. Voilà, merci. Merci
Baptiste. Comme je clôture, je vais essayer d'être rapide. Je représente donc... Oui, ben Marie-Lise reprendra la parole. Je vais t'en laisser un peu. Je représente l'Ariège, donc la SPAP et... La DIP. La SPAP, il faut quand même le dire, on a encore, alors qu'on n'est plus dans les grandes bagarres comme on l'était, il y a quand même encore près de 600 adhérents à la SPAP en Ariège. Et quand Jean-Pierre dit faut faire la guerre, oui, il a tout à fait raison. Et la guerre, on l'a fait, vous le savez tous, depuis 20 ans, et c'est très très difficile. Alors je vais dire trois petites choses rapides. La première, c'est concernant le lâcher de l'ours catalan, dont Bernard a dit quelques mots. Ce lâcher est totalement illégal, alors je le dis partout, mais je le redis, même si tout le monde à peu près le sait maintenant. Vous savez qu'à plusieurs reprises, Arcangeli, la dette, a déposé plainte avec l'argent que lui verse l'État français, il faut le dire ça, hein. Il est subventionné par l'État français. Et avec ce pognon, il a posé plainte contre l'État français devant la Cour de justice européenne parce que l'État français ne réintroduisait pas des ours. Il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a jamais eu d'attaque de la part de la Cour de justice européenne. Pourquoi ? Parce que toutes les réintroductions, et c'est le cas du dernier programme catalan, le programme LIFE, ça s'appelle. Ces programmes LIFE, c'est l'instrument financier de la directive Habitat, les zones Natura 2000. Et la directive Habitat est une loi qui s'applique à tous les États membres. C'est-à-dire que ne pas respecter la directive Habitat européenne, c'est aussi illégal que de ne pas respecter une loi française. Et l'article 22 de la directive Habitat dit que les réintroductions ne sont pas obligatoires, raison pour laquelle, avec l'opinion de l'État, Arcangeli peut attaquer devant la Cour de justice tant qu'il veut, il n'y aura rien, ne sont pas obligatoires, et que si les États membres, c'est les États, en décident, elles ne peuvent se faire qu'après consultation, ça retenez-le bien, après consultation des populations concernées. Article 22 de Habitat. Or, ce lâcher catalan est un programme LIFE, régi par la directive Habitat. Ce programme LIFE dit, noir sur blanc, que l'introduction de cet ours concerne l'ensemble de la chaîne pyrénéenne. Ça y est, plusieurs fois, hein, dans le programme catalan, donc on est tous concernés. Le lâcher est illégal parce qu'on n'a pas été consulté et donc on va, Bernard, on va donc attaquer sur le plan de la Cour de justice européenne l'illégalité de ce lâcher et en demandant que l'ours soit repris. C'est absolument essentiel de mener cette attaque parce que ça bloque tous les autres lâchers suspects qui voudraient faire part en dessous. Il faut savoir que par exemple le Val d'Aran prévoit de lâcher des lynx. là, hein, immédiat, dès lendemain. À propos de vous, je pensais à un truc à propos de Berdou, je vais le dire. Je m'étais inventé un slogan pour Berdou, je vous le dis. Vous connaissez tous l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Bon, hein, vous la connaissez. Alors voilà, j'avais inventé un slogan qui était le suivant. Ben, disait la chèvre. Berdou, Berdou, disait le loup. Ça aurait été bien, non? Comme un slogan. C'était bien, non? Bon, alors voilà, hein, sur le lâcher, la directive Habitat et le fait que, c'est pareil en Béarn, l'ours étant en général monté sur pattes, il se trouve qu'il se déplace, et donc on ne peut pas dire, quand bien même les malades mentaux là, qui sont pour le lâcher de l'ours là-bas, pour des raisons politicardes que tout le monde connaît, ils s'en foutent de l'ours, hein, c'est des raisons politicardes. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, parce que l'ours étant monté sur pattes, les populations concernées, c'est aussi les gens qui sont juste à côté, les voisins aux Pyrénéens, mais les voisins, bon, donc, arriver à obtenir qu'il y ait un jugement qui soit rendu sur ce qui s'est passé sur l'ours catalan serait une façon essentielle, alors c'est long, les procédures sont longues, mais une façon essentielle de les bloquer pour des tas d'autres choses. Point 2, alors par rapport, j'aurais dû commencer par là, la famille et la salle Carrère. Il se trouve qu'on a chez nous les premiers gros dérochements, Jean-Pierre Mirouz, que certains connaissent, 180 brebis foutus en l'air il y a presque 20 ans. Ils n'ont pas encore réussi à reconstruire leur troupeau, tous les éleveurs savent la complexité, hein, refaire des bêtes, la génétique, tout le merdieux. Le père de Jean-Pierre en a pété les plombs, il est encore malade, obligé de se faire soigner, hein. Il est devenu dépressif complètement, bon, il ne va pas... Pas du tout. Olivier Bedos, qui là c'est mort maintenant, pareil, 140 ours foutus en l'air, et la semaine dernière, juste 140 brebis, qu'est-ce que j'ai dit? Non, 140 brebis, non, les ours, putain, ça serait beau, je rêve.
Là,
c'est
bon.
C'est l'inconscient qui parle, hein, c'est l'inconscient qui parle. Trop bon, mais on va y arriver quand même, parce que moi je ne veux pas tout vous raconter, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout raconter. Mais donc, voilà, et la semaine dernière, donc, tout, un peu au-dessus de chez moi, 30 brebis qui dérochent aussi. C'est absolument infernal, cette situation. Alors, sur la situation ariégeoise, je voudrais dire deux mots, parce que, comme l'ont dit les uns et les autres, les cons d'en face, c'est des cons, faut le dire, et encore le mot est presque trop beau pour eux, bon, qui nous disent que tout se passe bien. Il se trouve qu'en Ariège, c'est là qu'il y a quasiment tous les ours, vous le savez, on a une trentaine d'ours, et ça tape en permanence, des vaches, des choses, de tout. Hein. On a, à l'heure actuelle, sur les estives, c'est 7 ou 8 estives, hein, sur lesquelles les ours tapent, alors que normalement, il y a 2% de pertes, vous le savez à peu près, hein, 2-3% de pertes dans les brebis qui montent, c'est entre 7 et 10%. Voilà, j'ai des copains qui ont changé d'estive cette année, mais je te plais, non, mais peu importe, ils étaient, si vous avez vu le reportage du comité de Massif, la nana qui à un moment poursuit un type, là, lui dit, bon, c'est la bergère qui est sur cette estive, Laurence. Et j'ai des copains qui étaient sur cette estive, qui sont de toute leur vie, le grand-père, l'arrière-grand-père, le copain, ça lui arrache les tripes, c'est son, il tient plus à cette estive qu'à ses propres gosses, presque, vous savez ce que c'est, l'attachement vraiment de famille, il a appelé à garder les bêtes là, ça lui arrache les tripes, on n'en parle jamais de ça, putain, on nous prend pourquoi? Pour des rochers. Les gens auxquels ça arrache les tripes de voir les bêtes foutues en l'air. Ça arrache les tripes de ne pas pouvoir aller là où ils avaient l'habitude avec leurs bêtes. Ça arrache les tripes, tous les souvenirs d'une vie. Mais peut-être c'est quand même scandaleux, qui l'accepterait ça? Mais donc, ils ont changé d'estive, il avait 10%, il a 10% de pertes depuis 2 ou 3 ans sur son estive. Et les bêtes tuées, introuvables. Parce qu'il faut savoir que les ours ont changé de comportement. C'est plus les premiers, quand ils ont lâché, tapaient comme des malades mentaux, de façon très très erratique, hein. Ils ne connaissaient pas le milieu, ils tapaient en crête, ils tapaient tout fini. Il y a beaucoup moins, enfin ça recommence un peu cette année ça, mais il y a beaucoup moins d'attaques en crête quand les bêtes sont par en haut. Ils attaquent essentiellement, enfin, passé le 15 août quoi, quand les bêtes ne peuvent plus manger en haut, tout est sec. Bon, les bêtes mangent un petit peu, sont en dessous un petit peu, les bois pas très loin, les ours attaquent là, planquent les brebis dans les bois et elles sont introuvables. C'est que quand on vous dit qu'il y a moins de pertes, non. Il y a au moins 1000 ou 1200 bêtes qui sont disparues sur les estives ariégeoises ou tape l'ours. C'est des chiffres énormes, hein. Et jamais comptabilisés parce qu'on ne les retrouve pas. Et je vais vous raconter sur ce plat une anecdote que me racontait justement Laurence, cette fille qui poursuivait le gars là, de noblesse. C'est le représentant des écologistes au comité de Massif. Elle me racontait ce qui lui est arrivé l'année dernière. Elle tombe comme ça sur une brebis bouffée pas loin de la forêt. Bon, alors, monter à la cabane, tout le monde sait ce que c'est, la bâche avec elle. Monter à la cabane, chercher de la bâche, mettre la bâche dessus, des pierres, des bidules, pour que les vautours ne bouffent pas le cadavre. Non. Elle remonte à un autre endroit pour téléphoner, parce que ça ne passe pas à la cabane. Enfin, on s'en fout aussi, hein, les heures de marche, pour cette connerie, hein, quand même. Hein. Tout le monde s'en fout. Qui accepterait ça comme condition de travail, hein. Elle remonte à la cabane, elle téléphone au gars de l'ONCFS qui remonte le lendemain ou le surlendemain. Ils arrivent à l'endroit, la bâche enlevée, plus de brebis. L'ours était revenu, avait tout enlevé, hein, et puis il s'était planqué la brebis. Et heureusement, il y avait un genévrier juste à côté. Et elle a vu des poils. Les mecs de l'ONCFS aussi, mais les mecs de l'ONCFS ont fait comme s'ils ne le voyaient pas. On les connaît. Il est arrivé chez nous sur des constats qui planquent avec les pieds les traces d'ours pour qu'on ne les voit pas. Hein. Je vous le dis ça. Planquer, effacer les traces d'ours pour qu'on ne les voit pas. Donc elle a vu ses poils, bon, c'était des poils d'ours, donc ça a été pris en compte. Et comme me disait Laurence, mais combien d'endroits où il n'y a pas de genévrier ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace et l'ours et les bêtes ont disparu. Alors ça a une conséquence concrète. L'an dernier, la foire de Castillon, qui est la foire d'automne de ces estives où les ours tapent le plus. Il y a 2 ans, il y avait 1500 brebis. L'an dernier, il y en avait 200. Tous les types étaient descendus de l'estive 3 semaines avant. Ce qui veut dire en clair qu'ils font bouffer les bêtes auprès chez eux 3 semaines avant. Ce qui veut dire en clair qu'ils attaquent la réserve de faune 3 semaines avant après. Ce qui veut dire en clair qu'il faut qu'ils rachètent du foin pour la bombe. C'est-à-dire que ça déstructure absolument tout le fonctionnement de leur système d'élevage. Voilà. Alors, quand on vous raconte que les choses vont bien, qu'en Ariège il y a moins de dégâts, c'est pas vrai du tout. Il y a des dégâts pires, il y a des vaches attaquées, il y a des veaux attaqués, y compris par les patous. C'est arrivé à un copain, le veau attaqué par un patou, enfin, c'est extraordinaire. Le patou qui passe au milieu du troupeau de brebis, le veau, qui passe au milieu du troupeau de brebis. Donc la situation ariégeoise, à l'heure actuelle, elle est catastrophique, au point que les gens, il faut le savoir ça concrètement, hein, au point qu'il y a des gens qui quittent les estives, il y a des estives qui ne réussissent plus à avoir des éleveurs, des troupeaux qui montent, et qui donc ne peuvent plus payer les emprunts qu'ils avaient faits dans le cadre de leur GP. Bon, vous connaissez ces problèmes techniques. Enfin, c'est une situation absolument calamiteuse et qui remet vraiment radicalement en cause non seulement les élevages concernés, la vie des gens concernés, mais la vie même des estives. Donc il faut que ça arrête, hein, c'est tout, il faut que ça arrête. Et les ours, alors je l'ai déjà dit publiquement, je le redis, les RG, vous le notez, les ours, il faut les éliminer physiquement, et je le dis ouvertement, on s'en occupe.
Alors, juste pour rappeler que nous avons eu aussi pas mal de coups de fil les uns et les autres, mais je ne voulais pas quand même terminer sans donner la parole à travers la messagerie, la parole à Francis Adair. Francis Adair, donc, qui est un éleveur de la Haute-Garonne, dans la vallée de l'Arbouste. Et dont Francis a été d'ailleurs le premier président de l'ADIP, donc Association de Développement Durable d'Identité des Pyrénées. Et ils ont créé, avec d'autres éleveurs, puisqu'ils ont eu les premiers ours lâchés en 1995, ils avaient créé une association que Béatrice maintenant préside, qui s'appelle l'ADIP, avec un seul D, 31. Voilà. Et dont Francis... je vais y arriver. Et donc, désolé de ne pouvoir être des vôtres. Info trop tardive, je vous adresse au nom de la CAP tout notre soutien, Francis Adair. Francis siège aussi à la CAP, qui est l'association des chambres d'agriculture Pyrénées, et qui a fait un courrier de soutien et a interpellé aussi dont le préfet de région et la ministre au sujet de ces éventuelles introductions pour s'opposer, évidemment. Donc voilà, Francis est un grand... Hein? Oui, voilà.
Il est co-signataire.
Co-signataire du courrier, voilà. Donc après, je voulais juste dire aussi, Philippe Lacube hier soir m'a appelé, dont tout le monde le connaît, personnage emblématique sur les Pyrénées. Et donc Philippe, il avait un calendrier un peu serré. Je lui ai dit, écoute, dans cette phase-là, c'est peut-être pas la peine que tu te déplaces depuis l'Ariège, mais on aura d'autres actions à mener, et donc on aura besoin de toi et de vous. Et donc, Bruno est venu aussi représenter les Ariégeois Voilà, donc je les remercie tous. Et je remercie aussi Jeannine Dubié. Je voudrais... Pardon, hein. Oui, voilà. Merci. J'ai que deux mains, alors c'est un peu long, je vais y arriver.
Elle est bonne, tu es très mal fichu.
Voilà. Alors, Jeannine Dubié a écrit un courrier, a envoyé un courrier ce matin à Laurent Lassalle-Carrère et à son fils Thierry. Jeannine Dubié, c'est notre députée de la circonscription, avec laquelle donc, nous sommes allés par deux fois au ministère de l'écologie, dont il y a deux ans en 2014, et puis cette année en 2016 avec Bruno. Et donc nous avons pu effectivement exprimer la parole des éleveurs. Donc elle est vraiment à nos côtés, et je ne vous lis pas toute la lettre, mais je vous lis une partie. Donc elle dit à cher Laurent, cher Thierry, « Je partage votre colère et comprends votre désarroi suite à la mort par dérochement de 125 brebis provoquées par l'attaque de l'ours. Je mesure l'ampleur de ce sinistre en termes de perte de revenus pour votre exploitation. Tout aussi grave est de voir tant d'efforts et de travail au quotidien réduit à néant en une seule nuit. Cela est insupportable et doit faire réfléchir ceux qui, par méconnaissance ou dogmatisme, plaident encore pour la réintroduction de nouveaux ours dans les Pyrénées. Soyez assurés de toute ma détermination et mon engagement auprès de vous et des éleveurs qui œuvrent au maintien des activités pastorales pour que cessent de telles catastrophes. Vous pouvez compter sur moi. » Voilà. Donc je voulais conclure par ça en disant que je pense que la présence des élus que nous avons du l'ancien canton de Lucin-Sauveur ici ce matin depuis 9h avec nous, qui sont encore restés, la présence de députés, de conseillers départementaux, etc. Je crois que c'est très important, et comme on l'avait déjà démontré les fois précédentes, il faut absolument travailler au corps tout le monde, qu'on aille dans le même sens et qu'il n'y ait pas d'hésitation. La cohabitation n'est pas possible, elle est insupportable, c'est incompatible. Il faut sauver le pastoralisme, il faut sauver le métier d'éleveur. Et donc, non, nous sommes là pour les représenter, et nous ne partirons pas de chez nous à coups de pied au derrière. Voilà.